France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est notre dernier jour en Haute-Vienne. La semaine a été riche. J'ai beaucoup aimé en particulier la céramiste installée à Chessoux, village pas très loin de Limoges, qui expliquait que la porcelaine est très susceptible. Gros coup de cœur également pour mon invité d'hier, l'un des créateurs du réseau des villes amicales pour l'autisme. Il est lui-même porteur d'autisme et il aide les communes à s'adapter à la neurodiversité. Je vous recommande ces deux émissions en podcast si vous les avez manquées. Au programme aujourd'hui, du sport et de la laine. Nous parlons d'abord d'un trail sur le plateau de Mille Vaches, accessible aussi bien aux sportifs aguerris qu'aux personnes en situation de handicap. Ensuite, je reçois la patronne d'une entreprise de literie, société coopérative qui fabrique des matelas en laine de mouton et valorise ainsi une matière première précieuse, souvent traitée comme un déchet. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Tout le monde peut relever un défi à condition d'adapter l'objectif aux capacités de chacun. À Émoutiers, dans le parc naturel régional de Mille Vaches, un trail est organisé chaque année avec l'ambition d'inclure les personnes en situation de handicap, notamment. Bonjour Antoine Léonet.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes sapeur-pompier volontaire et l'un des organisateurs bénévoles de ce trail organisé avec l'association ALEFPA, association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. C'est une asso qui existe un peu partout en France et qui accompagne dans différents domaines des personnes porteuses de handicap. Alors il y a chaque année de plus en plus de courses à pied partout, tout le temps, des 10 km, des marathons, des trails et j'en passe. Pourquoi votre course est-elle différente des autres, Antoine ?
Eh bien parce qu'on la veut réellement, c'est pas un effet d'annonce, sport pour tous, inclusion, partage et solidaire. En fait, aujourd'hui, l'ALEFPA Trail, comme il est nommé, permet à un sportif de haut niveau de venir relever un défi très rude de son parcours, qui sont très escarpés, ou même quelqu'un en situation de handicap peut lui réaliser un défi sur un parcours plus petit, mais qui pour lui est tout aussi important que le sportif de haut niveau qui va réaliser à une grande distance.
L'inclusion d'ailleurs, ça concerne pas uniquement le handicap, mais aussi les différents niveaux sportifs tout simplement.
Oui, tout à fait. En fait, de par notre événement, il y a de l'inclusion visible, bien évidemment, les gens qui sont porteurs d'un handicap, mais il y a aussi de l'inclusion pour tous, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès à un parcours et relever un défi. Vous pouvez aller d'un parcours de randonnée de 4 km, le plus petit, jusqu'à un parcours de trail pour coureurs expérimentés qui va jusqu'à 56 km et plus de 2300 mètres de dénivelé positif.
Oui, ça pique, là.
Ah, ça pique beaucoup, oui. Je vous confirme.
Comment adaptez-vous la course aux personnes en situation de handicap ?
Alors, deux volets par rapport à ça. Il y a déjà un travail qui est fait tout au long de l'année dans les établissements, puisque les établissements maintenant ont connaissance de la date et se préparent à l'événement.
On parle donc, bien en fait, des établissements de l'ALEFPA, l'association.
Oui, établissements de l'ALEFPA ou établissements médico-sociaux ou sanitaires autres que l'ALEFPA qui viennent aussi participer à l'événement, parce qu'il est ouvert à tous en fait.
D'accord.
Il est ouvert à tous. Et l'idée, c'est un petit peu de préparer le défi tout au long de l'année, pour se dire, cette année, on a envie de courir un 6 km sur un terrain escarpé. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va prendre le départ sans stress ? Et est-ce qu'on va tout au long du parcours tenir ? Et puis, est-ce qu'on va franchir la ligne d'arrivée comme un grand champion et être récompensé comme le tout un chacun ? Voilà, c'est un peu ça.
Ce qui compte, c'est l'accompagnement en amont, la préparation ?
Alors oui, il y a un accompagnement en amont qui est important, mais aussi il y a aussi l'accompagnement qui est fait, alors pas côté sportif, mais aussi dans notre organisation, puisque l'organisation pour un village qui est de 2000 habitants en Haute-Vienne démontre que nous avons une ressource de plus de 230 bénévoles. Et dans ces 230 bénévoles sont inclus des personnes en situation de handicap qui, au fur et à mesure des années, montent en compétences et nous aident au quotidien.
Ah oui, donc l'inclusion, ça se passe aussi dans l'équipe organisatrice.
Dans toutes les facettes, oui. Même dans le comité d'organisation dont je fais partie, on est une douzaine de personnes. Il y a une à deux personnes en situation de handicap qui nous accompagnent et qui prennent des décisions avec nous et qui donnent leur avis sur l'organisation de l'événement.
Et vous allez le courir, ce trail, Antoine ?
Alors non, moi je vais pas le courir. Je suis à fond dans l'organisation, comme mes camarades. Mmh. L'idée, c'est que le jour J, on puisse s'imprégner de l'ambiance et profiter de tout ce qu'on a travaillé tout au long de l'année pour que tout se passe bien le jour J en sécurité.
56 kilomètres, disiez-vous, pour le parcours de trail le plus difficile, avec 2000 mètres de dénivelé positif. Qu'est-ce que ça donne pour les autres parcours ?
Alors après, vous avez une déclinaison. Donc, si on part pour le parcours suivant, c'est un 35 km qui lui avoisine environ 2200 mètres de dénivelé positif. Ensuite, vous avez un 22 km qui lui est plutôt à vers 750 mètres de dénivelé. Un 14 km pour 400 mètres de dénivelé et un 6 km, une course pour débuter qui est plutôt aux alentours de 150 à 200 mètres de dénivelé positif. Mais ce qui est important, c'est que au-delà du trail, il y a aussi des randonnées parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Un défi peut se réaliser sur une randonnée comme sur les courses trail. Et on a trois randonnées le jour J, 4, 8 et 14 km et aussi des courses enfants.
Et le décor, le paysage autour, qu'est-ce que ça donne ?
Alors le décor, vous êtes tout de suite embarqué dans notre univers de village dynamique, de ruralité, de petite cité de caractère, puisque le départ se fait au cœur du village. Et puis une fois que vous avez le départ est lancé, vous commencez à prendre de la hauteur sur des monts à perte de vue, des terres de bruyères, de landes, de fougères. Et là, on appelle ça, nous, la terre de silence.
Pourtant, ça doit faire du bruit, les jours de course.
Les jours de course, quand vous avez 1500 personnes réparties sur nos parcours, c'est vrai que ça fait du bruit. Mais c'est quelque chose aussi que nous essayons de prendre en compte. On pourrait se dire qu'on pourrait monter en nombre de participants, mais c'est pas du tout une volonté. L'idée, c'est de préserver notre territoire aussi, préserver cette biodiversité. Et ce côté éco-responsable nous tient à cœur, puisqu'on a un label en ce sens.
Quels sont les retours des personnes en situation de handicap et de leurs familles, peut-être, qui ont participé les années précédentes ? Vous sentez que ça fait un effet, pas seulement en termes de défis sportifs, mais de représentation, peut-être de mieux-être pour les personnes concernées ?
Ah, pleinement. Le jour J, on les voit avec le sourire. Le lendemain de la course ou les semaines suivantes, on les croise dans la rue comme tout un chacun. Et ils nous disent, c'est quand l'année prochaine, c'est quand qu'on revient, c'est quand qu'on revit cette journée tous ensemble. Et c'est pour moi, enfin pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Le fait de pouvoir les inclure, le fait de voir leur sourire, le fait de les voir monter en compétence, le fait de voir d'être impliqué, c'est la plus belle des récompenses.
Est-ce que votre association a besoin de plus de bénévoles ?
On a toujours besoin de bénévoles. Aujourd'hui, on oscille entre chaque année, puisque ça va être la cinquième édition, entre 200 et 250 bénévoles par an. Mais aussi, on est à la recherche de mécènes, parce que l'idée, c'est de fidéliser l'événement. On sent que l'événement grandit, on sent que l'événement attire l'œil au niveau national. Et plus on aura de mécènes, aujourd'hui, ça représente 45 partenaires, à la fois institutionnels ou privés. Mais plus on sera nombreux et plus on aura de relations avec nos partenaires et nos mécènes, mieux ça sera.
Voilà, l'ouverture des inscriptions est prévue dans un mois, début avril, et le trail, ce sera le 19 septembre. Alefpa Trail à Émoutiers, en Haute-Vienne. Merci beaucoup, Antoine Léonet.
Merci à vous.
Et bonne
Merci
journée.
Beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
C'est un sujet dont on parle souvent dans cette émission parce que le gaspillage est considérable. La laine française n'est pas valorisée ou beaucoup trop peu. Aussi est-il important de mettre en lumière ceux qui utilisent cette matière première. Voici une société coopérative en Haute-Vienne qui fabrique des matelas, des couettes et des oreillers en laine. Bonjour Sarah Quesneau.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la gérante de Laine et Compagnie qui est basée à Château-Chervy, à une trentaine de kilomètres au sud de Limoges. Rappelons d'abord l'état des lieux, s'il vous plaît, pour se rendre compte de la situation. On peut parler du cours mondial de la laine.
Oui, qui depuis de nombreuses années est très très bas, donc on oscille entre 10 et 30 centimes suivant les années. La laine, majoritairement, elle est exportée à l'étranger, en Chine et ailleurs, et elle suit effectivement le cours des matières premières, avec donc beaucoup de spéculation, ce qui fait que depuis très longtemps, la laine n'est plus vraiment valorisée en France.
Oui, parce qu'à 10 ou 20 centimes, ça ne couvre même pas les frais de tonte des moutons.
Exactement, les éleveurs... c'est une charge pour les éleveurs et non un revenu. Et c'est pour ça que, bon, nous, dès le départ, on a eu cette volonté très forte de revaloriser cette matière première, de lui donner une vraie valeur. Donc c'est pour ça que les éleveurs avec qui on travaille, voilà, on est vraiment en partenariat et on achète la laine à un certain prix.
Vous travaillez chez Laine et Compagnie avec une quarantaine d'éleveurs qui sont en Haute-Vienne et en Vendée. Comment les avez-vous choisis, ces éleveurs ?
Alors, déjà avec des personnes qui souhaitent valoriser leur laine, qui ont une capacité à trier au moment de la tonte, des éleveurs qui font des élevages extensifs plein air, donc ça c'est très important aussi pour la qualité de la laine. On va avoir des laines de bien meilleure qualité à partir du moment où on est sur de l'élevage plein air. Et puis pour la literie, toutes les races ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que nous, on se focalise sur à peu près 4-5 races qui sont Texel, Suffolk, Vendéen. Ces moutons-là produisent de la laine qui a beaucoup de résilience, beaucoup de ressort. Et c'est une fibre intermédiaire, on va dire. On trouve des laines qui vont être bien pour le fil, d'autres plus grossières qu'on va utiliser pour faire des tapis ou autres. Mais pour la literie, c'est plutôt... ces races-là.
On parlait tout à l'heure d'un cours à 10 ou 20 centimes. Vous êtes, vous, bien au-delà pour l'achat de la matière première aux éleveurs.
C'est ça. La laine, on la paye entre 1,30€ et 1,50€ le kilo. Ce qui nous permet de proposer une vraie valorisation aux éleveurs.
Quelles sont les vertus de la laine en matière de literie, Sarah Quesnot ? Qu'est-ce que ça apporte à un matelas, à une couette, à un oreiller d'être fait en laine ?
Alors, il y a vraiment beaucoup de propriétés pour la laine de mouton. C'est une matière naturelle thermorégulatrice. Donc, pour la literie, c'est vraiment un atout. Elle isole du chaud, du froid, elle maintient la température corporelle et puis elle est respirante. Donc, ça va aussi éviter toute la transpiration naturelle du corps humain. Ça va la réguler et ça va l'extraire du couchage. C'est une matière anallergène. Donc ça aussi, c'est très bien. Elle réduit la prolifération des acariens, notamment. C'est une matière qui neutralise les composés organovolatiles, qui est dépolluante, donc, et qui est aussi antibactérienne. Donc voilà, pour les intérieurs de maison, c'est vraiment parfait.
Je vous pose évidemment la question, est-ce que ça gratte, une couette en laine ?
Alors non, pas du tout, parce que la laine qu'on utilise, nous, elle est enveloppée dans du tissu. Hein, on travaille des matières naturelles, donc du coton biologique ou du lin, pour envelopper tous nos produits. Donc on n'est pas en contact direct avec la laine.
C'est un marché de niche, hein, c'est peu de le dire. Quelle est la proportion de la laine sur le marché de la literie, Sarah Quesnot ?
Alors, sur le marché de la literie, on doit être à moins de 0,5%. Donc voilà, on essaie de se faire une place sur le marché de la literie naturelle, déjà, parce que le retour qu'on a, nous, au showroom ou quand on fait des salons, c'est de... Les personnes nous disent, mais on n'imaginait pas que ça se faisait encore.
On savait pas que ça existait. Toujours.
Voilà, on pensait... Soit on pensait que ça n'existait pas, soit on pensait que ça se faisait plus. Et donc, c'est vraiment l'enjeu, c'est de faire connaître le fait qu'on fabrique encore des matelas en laine et que ça fait des produits très confortables, qui sont fabriqués de manière artisanale, en circuit court. Et voilà, nous, c'est vraiment notre ADN depuis le départ. C'est de la matière première au produit fini, directement, puisqu'on on conseille nos clients et on vend en direct. Et c'est d'avoir du coup un produit qui a un faible impact, parce qu'il est fabriqué artisanalement, avec donc très peu d'énergie. C'est surtout de la main-d'œuvre. Hein. La fabrication d'un matelas, ça se résume à ça. À peu près 8 heures de fabrication pour un matelas. Et donc, en circuit court, donc on a un produit qui a un faible impact environnemental, finalement.
Et les prix sont ceux d'un produit artisanal ?
Oui, pour une literie, on est autour de 1 000 euros et ça correspond à un produit, finalement, qui est haut de gamme parce qu'il concentre beaucoup de qualité. Et finalement, on réussit à pas être si cher que ça, mais parce qu'on vend en direct, on n'a pas d'intermédiaire.
Laine et Compagnie est une SCOP, je le disais, une société coopérative. Le changement de statut date de 2021 et l'entreprise a été placée en redressement judiciaire en 2024. C'est tout récent. Comment va-t-elle aujourd'hui ?
Alors mieux, puisque on a été en observation pendant une année et puis maintenant, le plan de continuation a été accepté par le tribunal. Donc ça va beaucoup mieux. On a retrouvé une stabilité. voilà, on a subi un petit peu les soubresauts de l'après-Covid et puis de l'inflation, le pouvoir d'achat des Français qui a baissé, et donc ça a eu une répercussion évidemment. Mais aujourd'hui, voilà, on a retrouvé une bonne stabilité. L'enjeu, c'est vraiment de faire connaître l'entreprise et les produits.
Et quel retour avez-vous des éleveurs? Car c'est avant tout leur travail que vous valorisez.
Très positif, ils sont très heureux de savoir que leur laine est utilisée dans des beaux produits, des produits sains que les gens apprécient, plutôt que soit gaspillés, soit jetés.
Oui, soit jetés, soit envoyés en Chine.
Voilà, exactement.
Laine et compagnie, c'est donc à Château-Chervy en Haute-Vienne. Merci beaucoup, Sarah Queneau.
Merci.
Et bonne journée.
Merci, au revoir.
Et je remercie l'équipe des Carnet de campagne, émission préparée par Lucie Grandet-Lavigne et Sophie Hoffmann, avec l'aide de Jade Bellag, Célim Guéribi et Geoffrey Roblin à la technique.